Chapitre 10. Deux dominos. Au dehors, dans la rue du Chantre, les boutiques étaient toutes fermées. Parmi les commères, celles qui ne dormaient pas encore faisaient foule et tapage à la porte du palais royal. La Guichard et la Durand, Madame Balao et Madame Morin, étaient toutes les quatre du même avis. Jamais on n'avait vu entrer tant et de si riches toilettes aux fêtes de Son Altesse royale. Toute la cour était là. Madame Balao, qui était une personne considérable, jugeait en dernier ressort les toilettes préalablement discutées par Madame Morin, la Guichard et la Durand. Mais par une transition habile, on arrivait aux personnes après avoir épluché la soie et les dentelles. Parmi toutes ces belles dames, il en était bien peu qui eussent conservé aux yeux de Madame Balao la robe nuptiale dont parle l'écriture. Mais ce n'était plus déjà pour les dames que nos commères se pressaient aux abords du palais royal, bravant les invectives des porteurs et des cochers, défendant leur place contre les tarvenus et piétinant dans la boue avec une longanimité digne d'éloge. Ce n'était pas non plus pour les princes ou les grands seigneurs. On était blasé sur les dames, on avait eu des grands seigneurs et des princes, en veux-tu, en voilà. On avait vu passer Madame de Soubise avec Madame de La Ferté, les deux belles Lafayette, la jeune duchesse de Rosny, cette blonde aux yeux noirs qui brouilla le ménage d'un fils de Louis XIV, les demoiselles de Bourbon-Busset, cinq ou six Rohan de divers crus, des Broglie, des Chastellux, des Beaufremont, des Choiseul, des Coigny et le reste. On avait vu passer le comte de Toulouse, frère de Monsieur Dumaine, avec la princesse sa femme. Les présidents ne se comptaient plus, les ministres marquaient à peine. On regardait par-dessus les épaules les ambassadeurs. La foule restait pourtant et s'augmentait même de minute en minute. Qu'attendait donc la foule? Elle n'eût pas montré tant de persévérance pour Monsieur le régent lui-même. Mais c'est qu'il s'agissait en vérité d'un bien autre personnage. Le jeune roi? Non pas. Montez encore. Le dieu, l'Écossais, Monsieur Lowe, la providence de tout ce peuple qui allait devenir un peuple millionnaire. Monsieur Lowe de Lauriston, le sauveur et le bienfaiteur. Monsieur Lowe que cette même foule devait essayer d'étrangler à cette même place quelques mois plus tard. Monsieur Lowe dont les chevaux ne travaillaient plus, remplacés qu'ils étaient sans cesse par des attelages humains. La foule attendait ce bon Monsieur Lowe. La foule était bien décidée à l'attendre jusqu'au lendemain matin. Quand on songe que les poètes accusent volontiers la foule d'inconstance, de légèreté, que sais-je, cette excellente foule, plus patiente qu'un troupeau de moutons, cette foule inébranlable, cette foule tenace, cette foule infatigable qu'on vit de tout temps encombrer les trottoirs mouillés 15 heures durant pour voir passer ceci ou cela, pas grand-chose souvent, parfois rien du tout. Si les bœufs gras des 50 derniers siècles savaient écrire. La rue du Chantre, noire et déserte, malgré le voisinage de cette cohue et de ses lumières, semblait dormir. Ses deux ou trois réverbères tristes se miraient dans son ruisseau fangeux. Au premier abord, on y découvrait âme qui vive. Mais à quelques pas de la maison de Maître Louis, de l'autre côté de la rue, dans un enfoncement profond, formé par la récente démolition de deux masures, six hommes vêtus de couleurs sombres se tenaient immobiles et muets. Deux chaises à porteurs étaient à terre derrière eux. Ce n'était point M. Lowe que ceux-ci attendaient. Ils avaient les yeux fixés sur la porte close de la maison de Maître Louis, depuis que Coquardas Junior et Frère Passepoil y étaient entrés. Ceux-ci, restés seuls dans la salle basse après leur expédition victorieuse contre Berrichon et Dame Françoise, se posèrent en face l'un de l'autre et se regardèrent avec une mutuelle admiration.
« S'en dieu où, l'enfant ?» dit Coquardas. « Tu n'as pas encore oublié ton métier. »«
Ni toi non plus. C'est fait promptement. Mais nous en sommes pour nos mouchoirs. »
Si nous avons eu parfois à blâmer Passepoil, ce n'a point été par suite d'une injuste partialité. La preuve, c'est que nous ne craignons pas de signaler à l'occasion ses côtés vertueux. Il était économe. Coquardas, entaché au contraire de prodigalité, ne releva point ce qui avait trait au mouchoir.
Et donc, reprit-il, le plus fort est fait.
Du moment qu'il n'y a pas du Lagardère dans une affaire, fit observer Passepoil, tout va comme sur des roulettes.
Et, Dieu merci, le Lagardère est loin.
60 lieues de pays entre nous et la frontière.
Ils se frottèrent les mains.
Ne perdons pas de temps, mon bon, reprit Coquardas. Sondons le terrain. Voici 2 portes.
Il montrait l'appartement d'Aurore et le haut de l'escalier tournant. Passepoil se caressa le menton.
« Je vais glisser un œil par la serrure, » dit-il en se dirigeant déjà vers la chambre d'Aurore.
Un regard terrible de Coquardas Junior l'arrêta.
« Capé des bioux, » fit le Gascon. « Je ne souffrirai pas cela. Ta petite coquine est à faire sa toilette. Respectons la décence. »
Passepoil baissa les yeux humblement.
« Ah, mon noble ami, » fit-il, « que tu es heureux d'avoir de bonnes mœurs. »«
Trône de l'air, je suis comme cela.
Et sois sûr, mon bon, que la fréquentation d'un homme tel que moi finira par te corriger. Le vrai philosophe commande à ses passions.
Je suis l'esclave des miennes, soupira Passepoil. Mais c'est qu'elles sont si fortes. »
Coquardas lui toucha la joue paternellement.
« À vaincre sans péril, déclama-t-il avec gravité, on triomphe sans agrément. Monte un peu voir ce qu'il y a là-haut. »
Passepoil grimpa aussitôt comme un chat.
« Fermez »
dit-il en levant le loquet de la porte de Maître Louis.
« Et par le trou. Ici, la décence se le permet.
Noir comme un four.
Bien ça.
Récapitulons un peu les instructions de ce bon monsieur de Gonzague.
« Il nous a promis, dit Passepoil, 50 pistoles à chacun.
À certaines conditions. Primo. »
Au lieu de poursuivre, il prit le paquet qu'il avait sous le bras. Passepoil fit de même. À ce moment, la porte que Passepoil avait trouvée close au haut de l'escalier tourna sans bruit sur ses gonds. La figure pâle et futée du bossu parut dans la pénombre. Il se prit à écouter. Les 2 maîtres d'armes regardaient leur paquet d'un air indécis.
« Est-ce absolument nécessaire ?» demanda Coquardas, qui frappa sur le sien d'un air mécontent.
« Pure formalité, » répliqua Passepoil. « Et donc, Normand, tire-nous de là !»«
Rien de plus simple. Gonzague nous a dit, « Vous porterez des habits de laquais. Nous les portons fidèlement, sous notre bras. »
Le bossu se mit à rire.
« Sous notre bras !» s'écria Coquardas enthousiasmé. « Tu as de l'esprit comme 4, ma caillou !»«
Sans mes passions et leur tyrannique empire, » répliqua sérieusement Passepoil, « je crois que j'aurais été loin. »
Ils déposèrent tous les 2 sur la table leur paquet, qui contenait des habits de livrée. Coquardas poursuivit.
« Monsieur de Gonzague nous a dit en second lieu, vous vous assurerez que la litière et les porteurs attendent dans la rue du Chantre.
« C'est fait, » dit Passepoil.
« Oui, bien, » fit Coquardas en se grattant l'oreille. « Mais il y a 2 chaises. Que penses-tu de cela, toi ?»«
Abondance de biens ne nuit pas, » décida Passepoil. « Je n'ai jamais été en chaise.
Ni moi non plus.
Nous nous ferons porter à tour de rôle pour revenir à l'hôtel. »
« Réglé. Troisièmement, vous vous introduirez dans la maison.
Nous y sommes.
Dans la maison, il y a une jeune fille.
Tiens, mon noble ami, s'écria frère Passepoil, regarde, me voilà tout tremblant.
Et tout blême, qu'as-tu donc?
Rien que pour entendre parler de ce sexe auquel je dois tous mes malheurs.
Coquardas lui frappa rudement sur l'épaule.
Asse pas pur, fit-il. Mon bon, entre soi, on se doit des égards. Chacun a ses petites faiblesses, mais si tu me romps encore les oreilles avec tes passions, sans dire où, je te les coupe. »
Passepoil ne releva point la faute de grammaire et comprit bien qu'il s'agissait de ses oreilles. Il y tenait, bien qu'il les eût longues et rouges.
« Tu n'as pas voulu que je m'assure si la jeune fille était là, » dit-il.
« Elle y est, » répliqua Coquardas. « Écoute plutôt. »
Un joyeux éclat de rire se fit entendre dans la pièce voisine. Frère Passepoil mit la main sur son cœur.
Vous prendrez la jeune fille, poursuivit Cocardas récitant sa leçon, ou plutôt, vous la prierez poliment de monter dans la litière, que vous ferez conduire au pavillon. Et vous n'employerez pas la violence, ajouta Passepoil, que s'il n'y a pas moyen de faire autrement. C'est cela. Et je dis que 50 pistoles font un bon prix pour une pareille besogne.
Ce Gonzague est-il assez heureux ? Soupira tendrement Passepoil.
Cocardas toucha la garde de sa rapière. Passepoil lui prit la main.
Mon noble ami, dit-il, tue-moi tout de suite. C'est la seule manière d'éteindre le feu qui me dévore. Voilà mon sein. Perce-le du coup mortel.
Le Gascon le regarda un instant d'un air de compassion profonde.
Pécaire, fit-il, ce que c'est que de nous. Voici une bagasse qui n'employera pas une seule de ses 50 pistoles à jouer ou à boire.
Le bruit redoubla dans la chambre voisine. Cocardas et Passepoil tressaillirent, parce qu'une petite voix grêle et stridente prononça tout bas derrière eux.
Il est temps.
Ils se retournèrent vivement. Le bossu de l'hôtel de Gonzague était debout auprès de la table et défaisait tranquillement leur paquet.
« Oh oh ! » fit Cocardas. « Par où est-il passé, celui-ci ? »
Passepoil s'était prudemment reculé. Le bossu tendit une veste de livrée à Passepoil, une autre à Cocardas.
« Et vite ! » commanda-t-il sans élever la voix.
Ils hésitèrent. Le Gascon, surtout, ne pouvait point se faire à l'idée d'endosser cet habit de laquais.
« Capé des bioux ! » s'écria-t-il. « De quoi te mêles-tu, toi ?»«
Chut !»
siffla le bossu.
« Dépêchez !»
On entendit à travers la porte la voix de Dona Cruz qui disait
« C'est parfait ! Il ne manque plus que la litière !»«
Dépêchez !»
répéta impérieusement le bossu. En même temps, il éteignit la lampe. La porte de la chambre d'Aurore s'ouvrit, jetant dans la salle basse une lueur vague. Cocardas et Passepoil se retirèrent derrière la cage de l'escalier pour faire rapidement leur toilette. Le bossu avait entrouvert une des fenêtres, donnant sur la rue du Chantre. Un léger coup de sifflet retentit dans la nuit. Une des litières s'ébranla. Les deux camériistes traversaient en ce moment la chambre à tâtons. Le bossu leur ouvrit la porte.
« Êtes-vous prêts ? » demanda-t-il tout bas.
« Nous sommes prêts, »
répondirent Cocardas et Passepoil.
« À votre besogne !»
Dona Cruz sortait de la chambre d'Aurore en disant « Il faudra bien que je trouve une litière. Le diable galant n'a donc pas songé à cela ?» Derrière elle, le bossu referma la porte. La salle basse fut plongée dans une complète obscurité. Dona Cruz s'arrêta interdite. Elle entendait des mouvements dans l'ombre.
« Aurore ! » dit-elle d'une voix mal assurée. « Ouvre-moi ! Éclaire-moi ! »
Faut-il l'avouer, cette charmante Dona Cruz n'avait pas peur des hommes. C'était vers le démon que l'obscurité tournait ses terreurs. On venait d'évoquer le diable en riant, Dona Cruz croyait déjà sentir ses cornes dans les ténèbres. Comme elle revenait vers la porte d'Aurore pour l'ouvrir, elle rencontra deux mains rudes et velues qui saisirent les siennes. Ces mains appartenaient à Cocardas Junior. Dona Cruz essaya de crier. Sa gorge, convulsivement serrée par l'épouvante, étrangla sa voix au passage. Aurore, qui se tournait et se retournait devant son miroir, car la parure la faisait coquette, Aurore ne l'entendit point, étourdie qu'elle était par les murmures de la foule massée sous ses fenêtres. On venait d'annoncer que le carrosse de Monsieur Lowe, qui venait de l'hôtel d'Angoulême, était à la hauteur de la croix du Trahoir.
« Il vient ! Il vient » criait-on de toutes parts.
Et la cohue de s'agiter follement.
Mademoiselle, dit Cocardas en dessinant un profond salut qui fut perdu, faute de quinquet, permettez-moi de vous offrir.
Dona Cruz était déjà à l'autre bout de la chambre. Là, elle rencontra deux autres mains, moins poilues mais plus calleuses, qui étaient la propriété de frère Amable Passepoil. Cette fois, elle réussit à pousser un grand cri.
Le voici ! Le voici ! Disait la foule.
Le cri de la pauvre Dona Cruz fut perdu, comme le salut de Cocardas. Elle échappa à cette seconde étreinte, mais Cocardas la serrait de près. Passepoil et lui s'arrangeaient pour lui fermer toute autre issue que la porte du perron. Quand elle arriva auprès de cette porte,
Les deux battants s'ouvrirent. La lueur des réverbères éclaira son visage. Cocardas ne put retenir un mouvement de surprise. Un homme qui se tenait sur le seuil, en dehors, jeta une mante sur la tête de Dona Cruz. On la saisit, demi-folle d'effroi, et on la poussa dans la chaise, dont la portière se referma aussitôt.
« À la petite maison derrière Saint-Magloire !» ordonna Cocardas.
La chaise partit. Passepoil rentra, frétillant comme un goujon sur l'herbe. Il avait touché de la soie. Cocardas était tout pensif. «
Elle est mignonne !» dit le Normand. « Mignonne ! Mignonne ! Oh, le Gonzague !»«
Capé des bioux !» s'écria Cocardas, en homme qui veut chasser une idée importune. « J'espère que voici une affaire menée adroitement. »«
Quelle petite main satinée !»«
Les 50 pistoles sont à nous. »
« Je te l'ai dit. Du moment qu'il n'y a pas de Lagardère dans une aventure. »
Il regarda tout autour de lui, comme s'il n'eût point été parfaitement convaincu de ce qu'il avançait.
« Et la taille !» fit Passepoil. « Je n'envie à Gonzague ni ses titres, ni son or, mais... »«
Allons !» interrompit Cocardas.
« En route !»«
Elle m'empêchera longtemps de dormir. »
Cocardas le saisit au collet et l'entraîna, puis se ravisant.
« La charité nous oblige à délivrer la vieille et son petit, » dit-il.
« Ne trouves-tu pas que la vieille est bien conservée ?» demanda frère Passepoil.
Il eut un maître coup de poing dans le dos. Cocardas fit tourner la clé dans la serrure. Avant qu'il eût ouvert, la voix du bossu, qu'ils avaient presque oubliée, se fit entendre du côté de l'escalier.
« Je suis assez content de vous, mes braves, » dit-il. « Mais votre besogne n'est pas finie. Laissez cela !»
« Il a le verbe haut, ce petit homme !» grommela Cocardas.
« Maintenant qu'on ne le voit plus, » ajouta Passepoil, « sa voix me fait un drôle d'effet. On dirait que je l'ai entendu quelque part autrefois. »
Un bruit sec et répété annonça que le bossu battait le briquet. La lampe se ralluma.
« Qu'avons-nous donc encore à faire, s'il vous plaît, maître Ésope ?» demanda le Gascon. « C'est ainsi qu'on vous nomme, je crois. »
« Ésope, Jonas, et d'autres noms encore, » repartit le petit homme. « Attention à ce que je vais vous ordonner. »«
Salut son excellence, Passepoil.
Ordonnez, peste !»
Il mit la main au chapeau. Passepoil l'imita en ajoutant d'un ton railleur.
« Nous attendons les ordres de son excellence. »«
Eh bien vous faites !» prononça sèchement le bossu.
Nos deux estafiers échangèrent un regard. Passepoil perdit son air de moquerie et murmura.
« Cette voix-là, bien sûr que je l'ai entendue !»
Le bossu prit derrière l'escalier deux de ses lanternes à manches qu'on portait au-devant des chaises la nuit. Il les alluma.
« Prenez ceci » dit-il.
« Et donc ?» fit Cocardas avec mauvaise humeur. « Croyez-vous que nous pourrons rattraper la chaise ?»«
Elle est loin, si elle court toujours !» ajouta Passepoil.
« Prenez ceci !»
Ce bossu était entêté. Nos deux braves prirent chacun une des lanternes. Le bossu montra du doigt la chambre d'où Dona Cruz était sortie quelques minutes auparavant.
« Il y a là une jeune fille » dit-il.
« Encore ?»
s'écrièrent à la fois Cocardas et Passepoil. Et ce dernier pensa tout haut,
« L'autre litière !»«
Cette jeune fille, » poursuivit le bossu, « achève de s'habiller. » Elle va sortir par cette porte, comme l'autre. »
Cocardas désigna d'un coup d'œil la lampe rallumée.
« Alors, que ferons-nous ? » demanda le Gascon. « Je vais vous les dire. Vous aborderez la jeune fille, franchement, mais respectueusement. Vous lui direz, nous sommes ici pour vous conduire au bal du palais. »
« Il n'y a pas un mot de cela dans nos instructions, » fit observer Passepoil.
Et Cocardas ajouta.
« La jeune fille nous croira-t-elle ? » ?»«
Elle vous croira, si vous lui dites le nom de celui qui vous envoie. »«
Le nom de Monsieur de Gonzague ?»«
Non pas.
Et si vous ajoutez que votre maître l'attendra, minuit sonnant, souvenez-vous bien de cela. Dans les jardins du palais, au rond-point de Diane. »«
Avons-nous donc deux maîtres, à présent, sans Dieu ?»
s'écria Cocardas.
« Non, »
répondit le bossu.
Vous n'avez qu'un maître, mais il ne s'appelle pas Gonzague. »
Le bossu, disant cela, gagna l'escalier tournant. Il mit le pied sur la première marche.
« Et comment s'appelle-t-il, notre maître ?» interrogea Coquardas, qui faisait de vains efforts pour garder son insolent sourire.
« Ésope II, sans doute ?»«
Ou Jonas ?» balbutia Passepoil.
Le bossu les regarda. Ils baissèrent les yeux. Le bossu prononça lentement.
« Votre maître se nomme Henri de Lagardère. »
Ils tressaillirent tous deux et parurent soudain rapetissés.
« Lagardère ! » firent-ils de la même voix sourde et tremblante.
Le bossu monta l'escalier. Quand il fut en haut, il les regarda un instant courbés et domptés, puis il dit ces seuls mots
« Marchez droit !»
et il disparut.
« Aïe !» fit Passepoil quand la porte du haut fut refermée. « Aspa pur !» grommela Coquardas. « Nous avons vu le diable !»«
Marchons droit, mon noble ami !»«
Cap et débiou !» Soyons sages comme des images, et marchons droit.
Figure-toi, se reprit le Gascon, que j'avais cru reconnaître
le petit Parisien.
Non, la jeune fille, celle que nous avons mise en chaise, pour la gentille bohémienne que j'ai vue là-bas en Espagne, au bras de Lagardère.
Passepoil poussa un cri. La chambre d'Aurore venait de s'ouvrir.
Qu'est-ce donc ? Fit le Gascon en frissonnant.
Car tout l'épouvantait désormais.
« La jeune fille que j'ai vue au bras de Lagardère, là-bas en Flandre !» balbutia Passepoil.
Aurore était sur le seuil. « Flore » appela-t-elle. « Où donc es-tu » Coquardas et Passepoil, tenant à la main leur lanterne, s'avancèrent, l'échine courbée. Leur détermination de marcher droit s'enracinait de plus en plus. C'étaient du reste deux laquais du plus magnifique modèle, avec leurs épées en verrouille. Bien peu de Suisses de paroisse auraient pu lutter avec eux pour l'aisance et la bonne tenue. Aurore était si délicieusement belle sous son costume de cour qu'ils restèrent en admiration devant elle.
« Où est Flore ? Est-ce que la folle est partie sans moi ?»«
Sans vous !» renvoya le Gascon comme un écho.
Et le Normand répéta « Sans vous !» Aurore donna son éventail à Passepoil, son bouquet à Coquardas. Vous eussiez dit qu'elle avait eu de grands laquais toute sa vie.
« Je suis prête, » dit-elle. « Partons !»
Les échos.
« Partons !»«
Partons !»
Et au moment de monter en chaise.
« A-t-il dit où je le retrouverai ?» demanda Aurore.
« Au rond-point de Diane, » murmura Coquardas avec une voix de ténor.
« À minuit, » acheva Passepoil.
Tous deux, les bras pendants et le corps incliné. On partit. Par-dessus la chaise qu'ils accompagnaient, la lanterne à la main, Coquardas Junior et frère Passepoil échangèrent un dernier regard. Ce regard voulait dire « Marchons droit !» L'instant d'après, on eut pu voir sortir, par la porte de l'allée qui conduisait à l'appartement particulier de Maître Louis, un petit homme noir qui longea la rue du Chantre en trottinant. Il traversa la rue Saint-Honoré, au moment où le carrosse de ce bon monsieur Lowe allait passer, et la foule se moqua bien de sa bosse. De ces moqueries, le bossu ne semblait point beaucoup se soucier. Il fit le tour du palais royal et entra dans la cour des fontaines. Rue de Valois, il y avait une petite porte qui donnait accès dans la partie des bâtiments appelée « les privés de monsieur ». C'était là que Philippe d'Orléans, régent de France, avait son cabinet de travail. Le bossu frappa d'une certaine sorte. On lui ouvrit aussitôt, et du fond d'un corridor noir, une grosse voix s'éleva.
« Ah ! C'est toi, Riquet à la houppe » dit-elle. « Monte vite, on t'attend !»